écrit l'a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage d'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur parfois. Parce qu'on a la rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage d'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage car irréparable, fantasme depuis un bout de temps. La rage car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage c'est tout ce qui nous laisse. Vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car croulisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce...
Salut, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple. Aujourd'hui, le 3 mars, on va aborder un sujet qui est toujours d'actualité, qui va l'être d'autant plus samedi, le 8 mars, soit la question du féminisme et la condition des femmes. Parce que le 8 mars, c'est la journée mondiale des femmes. Et il y a justement à Sherbrooke des activités qui vont être organisées sur le thème. On a avec nous en studio Claudel et Thuro qui vont pouvoir venir nous parler de cette journée-là, mais aussi en général du féminisme. Puis, on va bien sûr pouvoir commencer l'émission avec l'actualité, comme on l'a fait à notre habitude. Et on va aussi avoir avec nous, dans les studios, un slammer qui va venir nous interpréter certaines de ses œuvres. Et puis, au cours de l'émission, on aura également Blandine qui va nous entretenir du féminisme libertaire, ce qu'on connaît aussi sous le nom de l'anarcho-féminisme. Le tout ponctué d'excellente musique, tout ça à la rage du peuple.
Choisis de marcher avec la rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition, la rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur parfois.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Jusqu'au
bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. On a la rage, le cœur parfois. On restera debout quoi qu'il arrive.
On est de retour à la rage du peuple. On vient d'écouter une excellente chanson de Specials, un groupe de reggae ska des années 70-80. Puis aujourd'hui en studio, on est plusieurs. Comme je disais, il y avait Claudel et Thio avec nous pour nous entretenir du féminisme et du 8 mars. Il y a aussi Jean-Michel qui est ici pour nous donner un slam. Et puis, il y a Jean-Martin qui va, comme à son habitude, qui est ici pour faire l'actualité. Puis d'ailleurs, c'est ce avec quoi on va commencer sur le moment. Je crois que Jean-Martin nous a préparé une sélection de nouvelles concernant, entre autres, le militantisme.
Savoir, c'est vivre, et maintenir dans l'ignorance, c'est presque un homicide.
Oui, cette semaine, on va faire de l'actualité. Je vais commencer avec des nouvelles locales, puis on va terminer avec des nouvelles plus internationales. Donc, il va y avoir une législation à Sherbrooke pour, en fait, donner des amendes à l'affichage sur les poteaux. En fait, l'affichage sur les poteaux va coûter cher à Sherbrooke. En fait, c'est le conseiller du centre-ville et le président du comité de sécurité publique, Serge Paquin, en a plus qu'assez de constater quotidiennement ce qu'il qualifie de pollution visuelle sur les poteaux de son district. Ah, puis là, ils vont jusqu'à dire que même les nouveaux poteaux de téléphone qui sont super chic à l'intersection...
Les lampadaires.
Ouais, c'est ça. Ils reçoivent de l'affichage sauvage, comme le déplore M. Paquin. Donc, ils critiquent, en fait, ils parlent d'entreprise, mais on ne sait pas s'ils visent aussi tous les groupes. En tout cas, sur la photo, ça n'a pas l'air d'être une annonce de commerce. Il souligne le fait que c'est des affiches qui font la promotion de commerce ou de sites Internet. Les contrevenants s'exposent à une amende minimale de 50 $ et pouvant atteindre 1 000 $ pour un individu ou 2 000 $ pour une compagnie. En cas de récidive, l'amende maximale atteint 2 000 $ pour un individu et 4 000 $ Donc, ça s'inscrit un peu dans la même lignée que l'abolition des... L'abolition, en fait, le travail contre les graffitis dans le centre-ville. Il parlait d'ailleurs de personnes qui se sont faites arrêter par rapport aux graffitis à tendance communiste qui avaient été faits dans le centre-ville. Donc, il y a quelques mouvements politiques qui vont être touchés par ces législations-là.
Sans dire que ça va augmenter la répression. C'est une porte d'entrée pour augmenter la répression policière à Sherbrooke qui est déjà assez forte là, en ce moment.
Mm-hmm. Surtout au centre-ville.
Plusieurs des groupes qui vont être visés, c'est entre autres des groupes qui ont un message politique à livrer, dont nous. On affiche d'ailleurs les affiches de la rage du peuple de cette manière-là parce qu'on n'a pas les moyens de se louer un gros panneau qui, d'ailleurs, pollue davantage, selon moi, qu'une affiche posée sur un tout petit lampadaire.
Le comité du 8 mars aussi.
Oui, le comité du 8 mars.
Je trouve ça drôle qu'il parle de pollution visuelle parce qu'en face de chez nous, il y a une grosse publicité. Puis, en fait, je trouve que c'est vraiment ça, la forme de pollution visuelle. J'ai pas choisi d'avoir une grosse pub qui me dit de consommer en face de chez nous. Bref, la définition de pollution visuelle est relative de qui en profite. Une autre nouvelle qui suit, les profs réclament la mort du projet de loi 117. Des associations de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Bishop ont uni leur voix vendredi pour réclamer la mort du projet de la loi 107. Je voulais dire la loi 107, de la ministre Courchaine, Michel Courchaine, qui doit réformer de façon importante la gouvernance universitaire. Cette loi-là oblige les universités à modifier la composition et les règles de fonctionnement de leur conseil d'administration. Ils regrouperont entre 13 et 25 personnes avec au moins les deux tiers des membres provenant de l'extérieur des universités, les représentants des communautés universitaires n'étant assurés d'occuper que 25 % des sièges au conseil d'administration, explique Jean-Pierre Kestman, membre de l'APRUS, qui est l'Association des professeurs et professeurs retraités de l'UDS. Donc, il va y avoir une conférence donnée par la personne qui a écrit le rapport Toulouse.
Monsieur Toulouse.
Oui, c'est ça. Donc, il va y avoir une conférence sur son rapport présenté par lui-même mardi le 17 à l'Université de Sherbrooke. Et il va aussi avoir une conférence lors des midis du collectif Université Libre, lors de la distribution de nourriture gratuite. Il va aussi avoir une conférence qui va être une présentation pour donner une contre-perspective par rapport à ça.
Moi, j'inviterais les gens, lors de la conférence de M. Toulouse, à aller le voir, à aller voir la conférence, puis à poser des bonnes questions. Pourquoi on demande à ce qu'il y ait 2/3 des gens qui viennent de l'extérieur, donc souvent de compagnies privées et tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable à l'interne? Pourquoi qu'on ne donne pas la chance à l'interne de régler ça dans la communauté étudiante avec les professeurs, les étudiants, les employés de l'université? Donc, c'est des bonnes questions à les poser, je pense.
Et puis, surtout qu'on se fait dire que les membres extérieurs de l'université, c'est des représentants de la société en tant que telle, tandis que parfois, ça peut être strictement des représentants d'intérêts privés. Donc, il n'y a rien à voir avec une... ils disent qu'ils font juste mieux servir la société, mais en fait, ils vont juste mieux servir les intérêts qui ont intérêt à marchandiser le savoir. Puis
c'est une belle ensemble. Porte à la privatisation des universités en général. Exactement. Même des réseaux d'EQ, des universités du Québec, comme l'UQAM et tout ça. Là. Donc, belle porte pour ouvrir à la privatisation, je pense. Mm.
La prochaine nouvelle, c'est la Caisse de dépôt. Les Québécois devraient revoir à la baisse leurs attentes. J'en parlerai pas longtemps, mais juste donner une perspective anticapitaliste par rapport à cette institution gouvernementale-là qui assure à beaucoup de personnes au Québec une stabilité économique plus ou moins collective. Donc, les Québécois et les Québécoises, donc c'est pas féminisé dans l'article, mais je le fais quand même, devraient revoir à la baisse leurs attentes face au rendement de la Caisse de dépôt et placement du Québec et recentrer le mandat de celle-ci sur la protection du capital. Donc, nous, en tant que communistes libertaires, en fait, moi, puisque nous ne sommes pas tous ici présentement communistes libertaires, donc moi, en tant que... en tant que communiste libertaire, le fait que la Caisse de dépôt ait perdu de l'argent, je trouve ça dommage puisque ça va être principalement des personnes en bas de l'échelle, en bas de la société, les plus dépourvues encore, qui vont devoir payer ces pertes-là, tandis qu'on sait très bien que l'ancien gestionnaire de la Caisse de dépôt est parti avec un boni grassement payé. Et maintenant que la Caisse de dépôt doit concentrer ses efforts devrait supposément protéger le capital. En fait, c'est le capital, le capitalisme, l'accumulation de profits sur le dos des communautés, des travailleurs et travailleuses et de la classe ouvrière, en fait. Bref, la Caisse de dépôt serait, est à mes yeux, une organisation capitaliste étatique et qui vient contrer, en fait, les intérêts de la société en tant que telle. Maintenant, on va faire un saut, peut-être souligner qu'il y a eu une manifestation samedi dernier par le Frappru, une manifestation du Frappru à Montréal samedi dernier. J'ai pas plus d'informations que ça, mais vous pouvez aller faire un tour sur le CMAQ.net pour aller visionner un clip qui a été tourné où est-ce qu'on voit les gens manifester. Le respect des engagements gouvernementaux en matière de logement. Donc, on continue cette fois-ci du côté de la Grèce. On va faire un saut au niveau international. Il y a une grève générale qui a été appelée par un syndicat en Grèce pour faire une grève générale pour protester contre les 4000 personnes qui ont été mises sur le chômage depuis le mois de février. Donc, c'est cette organisation-là qui représente environ 600 000 travailleurs et travailleuses urge une grève générale pour faire en sorte que ça ne soit pas les travailleurs et les travailleuses qui payent pour la crise du capitalisme. Puisque c'est pas eux qui l'ont mis de l'avant, mais plutôt leur patron ainsi que les personnes qui spéculent et qui souhaitent en fait tout le temps faire plus d'argent. Puis maintenant, ils veulent reléguer la charge de la crise sur les communautés de travailleurs puis les travailleuses. Toujours en Grèce, il y a eu une attaque de paramilitaires contre un organisme d'entraide avec les personnes immigrantes. À Exarchia, qui est la zone où est-ce qu'il y a eu des émeutes depuis le mois de décembre et un petit peu plus tôt, il y a un immeuble dans lequel il y a plusieurs organisations comme l'Association pour les droits politiques et sociaux. Et à côté de cette organisation-là, il y a aussi l'association de soutien aux immigrants. Alors, cette attaque-là par une... Il y a eu une grenade qui a été lancée dans la fenêtre de cette association-là et ça vise en fait les personnes immigrantes. Les gens qui essayent d'expliquer cette attaque-là mettent de l'avant le fait que ça serait des paramilitaires, en fait, souvent proches de la police, souvent proches de l'armée. Des fois, c'est des gens de l'armée d'extrême droite qui vont aller faire des attentats comme ça. Ça serait un leg de la période où est-ce qu'il y avait des généraux qui dirigeaient sous la dictature la Grèce jusque dans les années 1974. Et cette attaque-là a eu lieu, mais il n'y a pas eu de blessés, heureusement. La grenade n'a pas traversé la fenêtre car elle était doublée. Cette attaque-là avait lieu la même journée où est-ce qu'il y avait un procès contre Periandros, un leader qui avait été accusé en 1990 d'avoir essayé d'assassiner un étudiant radical de gauche. Donc,
on irait peut-être faire une courte pause musicale, Jean-Martin. Est-ce qu'il te reste beaucoup d'informations?
Quelques nouvelles encore, oui.
OK.
Donc, on peut aller faire une pause musicale, puis je vais revenir après.
On revient tout de suite.
Ouais. Sur les actualités à l'émission La Rage du Peuple à CFLX 95.5. Il y a eu une manifestation à Phoenix, en Arizona, contre le shérif Joe R. Payos, qui est en fait un policier qui essaye de mettre sur pied une police contre l'immigration illégale. Donc, il y a eu environ 3 000 personnes qui sont mobilisées pour dans cette marche contre la haine, dont entre autres Zach de la Rocca, qui est qui était le chanteur leader de Rage Against the Machine, il s'est aussi présenté à cet endroit-là. C'est pour vous donner une idée des luttes pour le droit aux personnes de le droit à la vie et aussi parce que personne n'est illégal. Il y a des organisations paramilitaires plus ou moins ils tiennent sur le bord des frontières avec leurs fusils puis ils tirent sur les gens qui essaient de traverser.
On peut dire que c'est paramilitaire.
C'est ça. Ouais. Donc, il y a des manifestations qui ont eu lieu récemment en Arizona. Il y a aussi en Ukraine, la dernière nouvelle que j'ai à vous offrir, après on va passer à autre chose. En Ukraine, des travailleurs et des travailleuses ont pris possession de leur usine. Ils sont tannés, en fait, des mensonges et de l'humiliation par leurs employeurs. C'est une des plus grosses usines agricoles de l'Ukraine. Ça fait quelques centaines de travailleurs et de travailleuses qui revendiquaient depuis un bon moment de se faire payer leur salaire qui était pas payé depuis quelques années. En 2006, c'est un travailleur qui s'est pendu littéralement à l'usine. Puis c'est après ce moment-là qu'il y a eu le paiement des salaires qui étaient arriérés. Suite à leur revendication de nationaliser l'entreprise, les travailleurs qui ont vu leurs revendications pas répondues ont décidé de s'approprier l'usine. Et maintenant, l'Ukraine va voir qu'est-ce qu'ils vont faire face à ça. J'espère que les travailleurs et les travailleuses de cette usine-là vont commencer à la faire produire dans l'intérêt de la population. Voilà, c'était ça pour les actualités. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir d'autres aussi sur les blogs de l'Union communiste libertaire, mm-hmm. aussi sur le CEMAC, aussi sur Anarchismo.
Je prendrais peut-être le temps qui nous reste avant la pause publicitaire pour justement parler d'informations qui ont été mises en ligne sur les blogs de l'Union communiste libertaire, surtout le collectif de Montréal, qu'on retrouve à l'adresse nefacmtl.blogspot.com. C'est une vidéo assez accablante qui a été mise publique des suites d'un procès justement d'une personne qui est impliquée de violence policière. On voit dans la vidéo une jeune fille se faire carrément battre de manière extrêmement violente par un policier, l'autre policier qui fait juste collaborer. Et c'est une vidéo, dans le fond, qui a été rendue publique pour le procès. Puis on se rend compte à quel point l'impunité policière, ça existe toujours, puis c'est même en recrudescence. Et je profite de l'occasion pour vous inviter à la 13e journée internationale contre la brutalité policière, qui est organisée par le collectif opposé à la brutalité policière, le COBP. De Montréal. La marche va se tenir le 15 mars et vous pouvez avoir toute l'information sur le site du COBP à l'adresse cobp-mtl.ath.cx. Donc, on va aller tout de suite faire la pause publicitaire et on va retourner on va aller dans le vif du sujet après la pause, soit le féminisme. Donc, à tout de suite.
Rouge pour la vie.
Orange pour la fierté.
Jaune pour le soleil.
Vert pour la sérénité.
Indigo pour l'harmonie.
Violet pour l'esprit.
Découvrez toutes les couleurs de l'homosexualité et de la diversité sexuelle à l'émission Couleurs vives, tous les mardis à 22h sur les ondes de CFDX 95,5 FM.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787 ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca.
à Félix, 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
Puisque les fusils et les canons font dans le monde des entailles, couvrant de morts les plaines et les vallons. Puisque les hommes sont des sauvages qui réunissent la fraternité, femmes debout, femmes à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
De retour en ondes, on vient d'écouter une chanson des Amis de ta femme qui s'appelle La grève des mères et qui porte justement sur le thème du féminisme. Bien que cette chanson-là date un peu et qu'elle ne soit plus nécessairement autant d'actualité pour ce qui est de certains thèmes, il y en a un qui reste toujours aussi évident, puis c'est dans le fond le féminisme, la condition des femmes et surtout à travers le monde, mais aussi dans nos sociétés occidentales et confortables. Puis on a avec nous Thioré et Claudel qui vont aborder le sujet. Pourquoi? Parce qu'ils sont membres d'un regroupement, je crois que c'est le regroupement du 8 mars, qui organise, mais en tout cas, bref, je me suis peut-être trompé, mais qui vont organiser le 8 mars prochain une marche. Je vais les laisser se présenter elles-mêmes.
Oui, bonjour, moi c'est Thuro, je suis militante, entre autres dans le mouvement étudiant, dans le mouvement communautaire pour le RAJ, qui est le regroupement autonome des jeunes, qui fait dans la défense de droits des jeunes à Sherbrooke, ici.
Moi c'est Claudel, j'étudie en études des femmes à Bishop. Je me suis impliquée dans divers comités femmes, puis voilà.
Pour faire une brève histoire de pourquoi qu'on a décidé d'organiser une marche ici à Sherbrooke, en fait, c'est qu'on discutait ensemble quelques militants, puis on s'est rendu compte, en fait, que la condition des femmes, c'est toujours à travailler, à retravailler, tout ça. On sent la pertinence, tu sais, de continuer la lutte féministe ici au Québec, plus spécifiquement aussi à Sherbrooke. On remarque qu'il y a encore beaucoup, beaucoup... le système patriarcal est encore là, je veux dire. Il y a beaucoup de...
D'oppression,
ouais, sur les femmes, exactement. Donc, dans tous les domaines. Donc, quand on parle de la privatisation des services sociaux, un impact sur les femmes, on parle qu'on n'a pas encore l'équité salariale, entre autres, qu'on menace le droit à l'avortement. Donc, nous, on voyait la pertinence de faire une action, en fait, pour le 8 mars, le jour des femmes.
Ouais. Je crois que ça faisait déjà un moment qu'à Sherbrooke, ça n'avait pas eu lieu le 8 mars.
Ça faisait 4 ans environ qu'il n'y avait pas eu de marche ici à Sherbrooke pour le 8 mars, exactement. Mm-hmm. Okay. Donc,
il y avait eu différentes activités, mais on voyait la pertinence de se faire de faire valoir nos droits dans la rue.
Oui, exactement. Puis donc, on discutait ensemble, puis on a essayé de regarder dans nos réseaux, puis d'envoyer une invitation large, puis d'aller rejoindre les groupes de femmes, comme par exemple Concertaction Femmes Estrie, qui est un organisme qui regroupe en fait 16 autres organismes qui fait dans la condition féminine ou qui travaille pour les femmes, en fait, donc à Sherbrooke. Donc, on a rejoint plusieurs groupes comme ça, Comité Mobilisation de la GFLESH, qui est la Faculté des Hautes Sciences Humaines, Comité Femmes de l'AEX, qui est l'Association du Cégep de Sherbrooke. On a aussi... Ouais, c'est ça. Donc, on s'est assis, puis on a décidé de partir une marche. Puis c'est comme ça que le projet a démarré.
OK. Donc, plusieurs femmes de plusieurs horizons qui ont décidé de s'organiser pour le 8 mars. Puis je pense que vous allez nous offrir...
Majoritairement aussi des jeunes féministes.
Oui, de jeunes filles qui vont nous présenter une journée le 8 mars. C'est à peu près à quoi va ressembler la journée? Je sais qu'il y a plusieurs choses de prévues.
OK. Ben, pour faire une synthèse de la journée, en fait, ça débute à 10h30. Il y a un brunch qui se passe à la Chaudronnée, organisé par Concertaction Femmes Estrie, l'organisme dont je viens parler. Donc, le brunch se fait là à partir de 10h30. À 11h30, à la même place, il y aura une conférence de presse justement pour parler de la marche, puis pourquoi qu'on fait la marche, pourquoi qu'on est féministe, tu sais, pourquoi qu'on est jeune et féministe à Sherbrooke. À 13h30, il y a une marche qui va débuter, qui va partir de l'Hôtel Dieu, en fait. On va faire plusieurs arrêts durant la marche sur des sujets différents. On va commencer par l'Hôtel Dieu, où est-ce qu'on va parler aux gens de la privatisation des services sociaux puis les impacts plus spécifiques sur les femmes de cette privatisation-là, exactement. Ensuite, le trajet va se poursuivre. On va repasser devant la Chaudronnée, où est-ce qu'il y a un organisme, la table, qui va faire... ils vont parler pour... de la pauvreté, en fait, puis comment ça a un impact spécifiquement sur les femmes aussi, sur en quoi ça a un impact. Ensuite, on continue notre trajet, puis on arrête
peut-être
à...
Peut-être mentionner aussi que le brunch est organisé par... C'est quoi? Restaurant d'un jour? Donc, la bouffe va être faite... ça va être de la bouffe africaine, je pense?
C'est ça, c'est Concertaction Femmes Estrie qui organise, puis ça va être des femmes qui viennent, je me rappelle plus du Congo, République démocratique du Congo, qui vont organiser la bouffe. Donc, c'est ça. Pour poursuivre le trajet, on arrête au cinéma, après à la Maison du cinéma, où est-ce qu'on a Michel Batz là aussi, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke en travail social, qui va nous parler de la pertinence du féminisme aujourd'hui, pourquoi que c'est toujours d'actualité. Ensuite, on embarque sur la Wellington, où est-ce qu'on va s'arrêter, on va faire un arrêt pour parler, entre autres, du GHB, de la marchandisation du corps des femmes, puis aussi du travail du sexe. Ensuite, on passerait au 187 rue Laurier. Pour ceux qui ne connaissent pas le 187 rue Laurier, c'est le bâtiment où est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires à Sherbrooke qui sont regroupés là, en fait. On va parler de la construction du mouvement communautaire par les femmes au Québec, parce que les femmes ont construit le mouvement communautaire. Puis aussi des coupures dans les organismes communautaires, puis l'impact que ça a spécifiquement, mettons, sur les organismes qui travaillent avec les femmes, pour les femmes, par les femmes.
Juste mentionner aussi que pour nous, c'était super important d'être le plus inclusif possible, donc de penser à tous les groupes de femmes qui sont spécifiquement opprimées, comme les travailleuses du sexe, les femmes autochtones, les femmes immigrantes, quoi d'autre?
Oui, exactement. Puis le dernier arrêt, ce serait statue sur King. On monte sur King, on arrête à la statue militaire pour parler justement de la militarisation, puis comment ça a un impact sur les femmes, le viol en temps de guerre.
L'abus du corps policier sur les femmes.
L'abus du corps policier sur les femmes aussi.
Puis parlant, je me souviens d'une citation, je ne sais plus exactement de qui disait... qui est encore plus inconnu que la femme du soldat inconnu, genre, juste pour prouver un peu la situation dans laquelle se trouvent les femmes en temps de guerre. Puis, c'est pas le seul aspect, mais bon.
Oui, exactement. Puis, c'est ça. Donc, ça va être une manifestation qui va être... ça va être une belle manifestation. Où est-ce qu'on va aussi distribuer... on a le comité du 8 mars, si on peut s'appeler comme ça. On n'a pas encore un nom officiel. On peut s'appeler le comité du 8 mars. On a participé à la construction d'une revue, en fait. On a fabriqué une revue dans laquelle il y a plusieurs articles qui vont toucher aussi le sujet des femmes autochtones, entre autres, le sujet du GHB, la pertinence du féminisme, privatisation, fondation du communautaire. Donc, tous les thèmes vont se retrouver. Donc, les gens vont pouvoir avoir une revue à lire après sur le féminisme. À 16h30, en fait, tout de suite après la manifestation, on va être au RAGE, au local du RAGE, qui est au 101 Ball. Il y a le collectif pour une université libre qui fait des bouffes solidaires à l'université depuis maintenant un bon moment, quelques années, qui va nous avoir concocté un bon petit souper à contribution volontaire. Donc, on donne ce qu'on veut. Où est-ce que les femmes et les hommes, en fait, vont pouvoir se regrouper, puis on va pouvoir discuter aussi du féminisme, en fait, des perspectives et tout ça. Puis ensuite, j'invite les gens à venir à la bibliothèque Eva Sénécal, parce qu'à 19h, il y a un visionnement d'un film qui est organisé par le comité des femmes de la Fédération culturelle à Sherbrooke.
C'est donc une journée très bien remplie sur le thème du féminisme et de la condition des femmes.
Oui.
Puis justement, parlons-en du féminisme et de la condition des femmes.
J'ai juste un dernier événement annoncé. Je pense que c'est le mardi 10 mars. Il va y avoir le visionnement de Polytechnique
à la Maison du cinéma à 17h30. Puis c'est organisé par le comité conditions féminines de la CSN. Puis il y a un goûter, mais c'est sous réservation. Fait que pour les gens qui sont intéressés à y aller, peuvent appeler au 819-563-6515. Puis pour ce qui est de la marche et du brunch, les gens peuvent appeler au RAGE en appelant au 542-1045.
Puis le visionnement est gratuit, si je me trompe
oui.
pas.
Parfait. Donc, on va en revenir justement en quoi le féminisme et la condition des femmes est toujours d'actualité. J'ai beaucoup de pistes de réflexion, mais je pense que vous en avez davantage.
On pourrait y aller point par point, peut-être en commençant par faire une présentation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mm-hmm. oui. Nous, on aurait aimé parler de la naissance de la journée internationale des femmes du 8 mars. Donc, Claudette va peut-être commencer.
Oui, je vais y aller avec l'historique. Donc,
international.
Oui, voilà. Donc, le 8 mars a son origine au début du 20e siècle avec des manifestations en Europe et aux États-Unis de femmes qui réclamaient le droit de vote et des meilleures conditions de travail. Ensuite, en 1910, il y a eu la proposition lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague qui ont proposé de créer une journée internationale des femmes. Cette proposition-là avait une perspective révolutionnaire et son objectif immédiat était le droit de vote des femmes. Ensuite, l'année suivante, en réponse à cette proposition-là, il y a eu dans plusieurs manifestations dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. Puis, outre le droit de vote, les femmes revendiquaient le droit d'occuper des fonctions publiques et exigeaient le droit de travailler, élimination de la discrimination du travail. À cette époque-là, la date était le 19 mars, puis c'était en commémoration de la Révolution de 1848 et de la Commune de Paris. Ensuite, deux ans plus tard, en 1913, dans le cadre du mouvement pour la paix, les femmes russes ont célébré pour la première fois la Journée internationale des femmes à la fin février en organisant des rassemblements clandestins. Puis l'année suivante, en 1914, ailleurs en Europe, il y a eu des rassemblements autour du 8 mars pour protester contre la guerre. Ensuite, en 1910, c'est à ce moment-là qu'a débuté la tradition du 8 mars avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg qui réclamaient du pain et le retour de leur mari parti au front. Donc, cette journée-là était le début de la Révolution russe, en fait. Ensuite, en 1921, Lénine a décrété le 8 mars comme journée internationale des femmes en souvenir des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Puis, après 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la tradition s'est étendue à plusieurs pays dans le monde. Puis ensuite, dans les années 70, c'est à partir de ce moment-là que le 8 mars a rompu sa signification avec sa signification qui était communiste pour prendre une place plus symbolique dans la lutte des femmes. Puis c'est en 1977 que l'ONU, que les Nations Unies ont reconnu officiellement la Journée internationale des femmes. Donc, on peut voir qu'à la base, cette journée-là avait une signification plus socialiste. Puis après ça, les femmes radicales dans les années 70 ont repris cette journée-là pour la lutte des femmes.
Oui, bien exactement. Moi, je vais peut-être plus parler de la journée du 8 mars. Comment ça a commencé à être fêté, célébré au Québec, en fait? La première célébration aurait eu lieu en 71, dans le fond. On se rappelle que les années 70, comme C'est les années effervescentes là, où est-ce que les mouvements sociaux sont très forts. On parle d'un syndicalisme fort, on parle d'un mouvement étudiant fort, on parle d'un mouvement féministe combatif, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, on s'appelle... C'est la période que Micheline Dumont appelle pour cadrer avec le féminisme, la grande ébullition féministe qui est entre 69 et 80, les années 69 et l'année 80. Donc, on se rappelle aussi que des années 70, il y a beaucoup, beaucoup de conflits de travail, entre autres en éducation, dans la santé, les infirmières, les infirmiers qui sortaient dans la rue pour réclamer 100 $ par semaine et tout ça. Il y a un front commun. On se rappelle du Front commun, CSN, FTQ, CEQ qui se regroupent. C'est aussi là où il va y avoir l'arrestation des trois grands chefs, des trois chefs des centrales syndicales, en fait. Ce qui fait que, par rapport à ça, les femmes syndicalistes ont senti besoin de former des comités femmes dans les grandes centrales. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la CSN, la CEQ et la FTQ créent des comités femmes. Ces comités femmes-là, il faut le dire, sont influencés par les analyses de l'extrême-gauche. Donc, c'est un féministe radical dont on entend parler, qui, dans le fond, eux autres, ce qu'ils prônent comme les féministes de l'extrême-gauche, c'est l'amélioration de la condition des femmes par l'abolition du capitalisme. Donc, on voit que c'est très radical là, comme mm-hmm. féministe et tout. Puis, ce sont ces comités femmes-là qui ont repris par la suite l'organisation du 8 mars au Québec. Donc, c'est ces organisations-là qui se sont chargées d'organiser ce 8 mars-là. Puis, faut dire aussi qu'à l'époque, la FFQ puis la FEAS, les deux organisations féministes et féminines, fêtait pas encore à l'époque le 8 mars. Ça a été beaucoup plus tard. J'ai pas la date exacte. Parce que le 8 mars était trop associé à un féministe qui est radical, alors qu'eux sont plutôt dans un féministe qui est réformiste. Mm-hmm. Donc, ça a pris du temps avant que ce soit fêté par l'ensemble des organisations au Québec le 8 mars. Mm-hmm. Puis par la suite, on sait que la FFQ organise à chaque année une marche pour le 8 mars et d'autres organisations comme ça de femmes.
Mm-hmm. Puis je crois que c'est aussi à cette époque-là que tu l'as mentionné, que les femmes ont senti pertinent de se constituer en comité qui n'était pas nécessairement non mixte, parce que justement, dans le milieu militant et révolutionnaire, il y avait beaucoup de machisme, pour utiliser le mot précis. D'ailleurs, quand le FLQ avait publié sorti son manifeste, le Mouvement de libération des femmes du Québec avait décidé d'en publier un autre en réponse et qui se voulait autant contre le machisme, mais aussi très révolutionnaire. Puis il s'est donné naissance à d'autres organisations.
En fait, peut-être pour faire une nuance, c'est pas à partir de ce moment-là que les femmes ont senti besoin de former que des comités non mixtes, parce qu'il y avait beaucoup d'organisations non mixtes aussi à la base avant, de tout temps, en fait, dans l'histoire du féminisme au Québec. Sauf que c'est à partir de ce moment-là, si on peut le mentionner, que les comités, par exemple, dans les syndicats, ont arrêté de s'appeler comité féminin ou comité féminine ou tout ça. Puis on s'est vraiment appelé féministe, comité de femmes ou des trucs comme ça. Mm-hmm.
Bien, on va peut-être en profiter, à moins qu'il y ait d'autres interventions, pour faire une pause puis continuer par la suite sur le même sujet.
On va aller écouter une chanson qui a été amenée par nos invités.
C'est une chanson qui a été composée par Anne Sylvestre, mais l'interprétation dans la version qu'on présente est de Pauline Julien. C'est une sorcière, une sorcière comme les autres.
Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous cherchais en hurlant.
sorcière comme les autres.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église. Et c'est mon cœur, ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle du monument aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille d'asphalte ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Voyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi, regardez, je suis ainsi, apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant, j'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne savais pas. Mais un jour, la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer a son tour d'ivade, de violence inemployée. Me voilà. Vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur. Mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Donc, on est de retour en onde à la rage du peuple sur les ondes de CFLX 95.5. Puis, pour le temps qui nous reste avant la pause commerciale, on va vous présenter Jean-Michel, Nous, ici, à la Rage, on a rencontré Jean-Michel dans une soirée de slam auquel il participait, puis on avait beaucoup aimé ce qu'il avait composé, ce qui était engagé très social. Et puis, nous, on a eu à l'idée, on s'est surtout fait proposer l'idée d'amener, de présenter des slameurs à notre émission de radio, puisque les slameurs ont souvent un contenu politique assez intéressant. Puis là, c'est Jean-Michel qui s'est présenté aujourd'hui pour l'émission. Puis justement, je crois, du matériel qui va être très contextualisé.
D'accord. Premièrement, je veux dire que c'est ma première expérience à la radio. Puis je trouve ça extrêmement... je me sens privilégié d'être ici puis de prendre la parole. Je vais essayer de le faire avec circonspection, c'est-à-dire je vais essayer d'entrer droit dans le sujet des femmes aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps de ça... Puis c'est ce qui m'a surpris dans l'historique tantôt du féminisme, c'est que ça fait pas longtemps. Tu sais, de tout ça, l'histoire,
ça
c'est récent. Puis c'est tellement récent que, v'là pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Saint-Cyprien qui disait « La femme, c'est l'instrument qu'emploie le diable pour posséder nos âmes. » Tu sais, je pense que juste ça, là, ça frappe d'un dent, puis ça fait pas longtemps que ça a été dit, ça. Bien avant ça, Pythagore disait... Ne permettez point à une femme de parler en public, d'ouvrir une école ou de fonder une secte ou un culte. Tu sais, on avait peur, en fait, de ce que la femme pouvait faire. Ensuite, Saint Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. L'homme, lui, ne doit pas couvrir la tête parce qu'il est l'image et le reflet de Dieu. Voilà pourquoi les femmes doivent avoir la tête sous un signe de suggestion. Alors... c'est sympa.
Ça donne une bonne idée aussi comment on concevait les femmes. En fait, on ne les comprenait tout simplement pas, j'ai l'impression. Puis, il y a même des auteurs auxquels on prend comme référence pour l'Occident moderne, soit les Lumières, qui sont assez effrayants, comme Jean-Jacques Rousseau, qui considérait que le rôle de la femme était
à la maison.
Justement à la maison. Puis, ce qui est malheureux, c'est Louis-Joseph Proudhon, qui est un théoricien anarchiste, qui avait un peu les mêmes idées, mais ça, on s'en défait.
Voilà. On peut toutes les nommer. Il y a Nietzsche aussi.
On parle aussi d'artistes, je veux dire. On peut parler de Brassens, misogyne ou de...
C'est présent dans les arts partout. Et puis, ces temps-ci, je regarde beaucoup qu'est-ce qui s'est passé dans la musique, dans les textes, dans la littérature. Puis on voit que la femme, je veux dire, même les femmes avant empruntaient un nom d'artiste d'homme, comme par exemple, je ne sais pas, George Sand. Il y a eu plusieurs Jane Rice ou tout ça qui ont utilisé des noms d'hommes pour parler parce qu'ils n'avaient pas le droit à la parole. J'aimerais continuer en citant quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un artiste qui s'appelle Akhenaton du groupe I Am. Je ne sais pas si vous connaissez...
C'est un groupe français assez classique. Là.
Absolument. Très, très revendicateur aussi. Dans un texte qui s'appelle « La fin de leur monde », il parle des femmes. Il dit « On parle du droit des femmes quand leur mari les frappe, avec des clichés religieux sortis tout droit des fables. Comme si elles étaient bien depuis le Moyen Âge, mais c'est en 46 que s'est ouverte une nouvelle page. Maintenant, est-ce qu'elles nous valent? On dit dans les ouvrages. Pourquoi elles touchent moins de pognon à compétences égales? Pourquoi elles seraient moins faites pour être responsables alors qu'elles nous ont tous torché le cul nu dans le sable? » Et moi, c'est des paroles que je trouve qui frappent beaucoup.
Oui, c'est frappant.
Ceci étant dit... il me reste combien de temps?
On a facilement 4 minutes.
D'accord. Je vais enchaîner dans ce cas-là avec... j'ai pas écrit directement quelque chose sur le droit des femmes. J'ai plutôt écrit sur ce que les femmes peuvent vivre. Puis je pense que c'est ça qui est important de dire aussi, c'est que les femmes, non seulement à travers l'histoire, mais encore continuent de subir, pas juste une oppression, mais il y a beaucoup de violence faite à la femme, tout ça, et aux femmes en général. Et puis, j'aimerais vous citer des trucs que j'ai trouvés dans mes textes que j'ai composés à travers les années. C'est des petits bouts.
Shoot.
Alors, je shoot. Isabelle, 14 ans, trouve que la vie est cruelle. Elle qui était sensuelle, maintenant ne se trouve plus belle. On déplore que si jeune, les mecs se ruent sur elle. Pucelle, innocente, ils voulaient faire du sexe sur elle. La vie est cruelle, agression sexuelle. Cette nuit dans la rue, elle la gardera pour elle.
Wow.
J'enchaîne sur quelque chose que j'ai écrit à propos de l'anorexie. C'est une chanson complète, mais je vous cite juste la fin parce que c'est ça qui est important à dire dans cette chanson-là. C'est qu'il existe en ce monde-ci mille et un récits de filles qui ont réussi et qui aujourd'hui l'apprécient. Maintenant, elles voient la vie plus belle et remercient le ciel de s'être accrochées à la vie. Elles diront que c'est peut-être dur, mais qu'au moins ça vaut la peine. SOS, au milieu des eaux, elle se noyait dans sa peau, mais bon, maintenant un bateau la ramène. Elles s'unissent toutes aujourd'hui pour dire la phrase qui suit. Tu peux vaincre l'anorexie.
Ouais, c'est un problème dont on parle, mais de moins en moins, je trouve. On en entend moins parler dans les médias.
Je crois qu'on en parle pour les mauvaises raisons. Là, je veux dire, on va utiliser la publicité pour justement conscientiser les gens, mais je pense que la source première des gens qui ne se retrouvent pas dans leur propre corps, c'est la publicité, puis c'est l'idée de la représentation de la femme, d'une femme qu'on peut se faire. Qui mène à ce phénomène-là.
Absolument. Toute l'influence extérieure qui va créer la pression. Mm-hmm. Tu sais.
C'est la même histoire qu'avant. Je veux dire, avant, on donnait une identité à la femme qui était une idée masculine, puis c'est encore la même chose. On donne une idée de la femme qui est marchandisée, qui est faite pour vendre, mais qui est aussi faite pour répondre aux besoins, surtout des hommes.
Théo et Claudel, on parle depuis tantôt de la femme en début d'émission. Oui, ben c'est ça, en fait. Est-ce que vous pouvez dire comment est-ce que de dire la femme, ça crée un peu une image d'identité unique autour du sexe féminin?
Oui, ben en fait, quand on parle de la femme, on renvoie surtout à l'idée d'un objet unique standardisé, en fait, où est-ce qu'il n'y a pas une pluralité de personnes qui peuvent avoir cette identité-là de femme. C'est pour ça qu'on parle des femmes et non de la femme. Je ne sais pas si Claudel avait quelque chose à rajouter là-dessus.
Ben en fait, je pense que la pertinence est plus de parler des femmes parce qu'il y a différents groupes qui sont touchés, puis il n'y a pas une femme... sous un modèle unique.
Il n'y a pas de femme avec un grand F.
Voilà.
OK, bien, on va se laisser sur ça pour l'instant pour continuer avec la pause musicale et publicitaire. Donc, à tout de suite.
Ici André Robitaille. Les ampoules fluorocompactes durent 6 à 8 fois plus longtemps et consomment 5 fois moins d'énergie que les ampoules ordinaires à incandescence. Elles contiennent toutefois des gaz comme le mercure qui sont toxiques et polluants. Vous devez donc les manipuler avec précaution pour éviter de les briser. Rapportez vos ampoules fluorocompactes usagées à un éco-centre avec vos déchets domestiques dangereux. Cela évitera que le mercure qu'elles contiennent ne contamine l'environnement. Parce que chaque petit geste est important.
Un message de la Fondation québécoise en environnement.
Voici la météo sur l'Environnement Canada en ce mardi 3 mars. Pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé. On prévoit un minimum à moins 22 degrés. Et pour demain mercredi, ce sera ensoleillé avec des passages nuageux. On prévoit un maximum à moins 9 degrés. La météo à CA Félix vous est présentée à toutes les heures.
CA Félix, 95,5 FM. La radio communautaire de l'Est.
Donc, c'est déjà tout pour la pub. On est de retour sur les ondes de CFLX 95.5 à la Rage du Peuple, émission d'actualité sociale et politique, et aujourd'hui, le féminisme. Donc, on était avec Thuro, Claudel et Jean-Michel, et Jean-Martin et moi-même Guillaume, et on va continuer sur le thème du féminisme.
Devigny a dit quelque chose d'extrêmement intelligent. J'ai lu ça fait pas très longtemps. Il dit, après avoir étudié